Bonsoir. Le département du travail des États-Unis d'Amérique ajoute le cobalt de la RDC à la liste 2024 des biens produits par le travail des enfants ou le travail forcé. C'est ce qui est contenu dans une note d'information adressée cette semaine au gouvernement congolais par Cobalt Institute, une association commerciale mondiale représentant l'ensemble de l'industrie et de la chaîne de valeur du cobalt. Ce document a établi un lien entre le travail forcé dans la chaîne de l'exploitation minière artisanale et industrielle du cobalt en RDC. Cobalt Institute a toutefois précisé que l'inclusion plutôt du cobalt congolais dans la liste ne signifie pas nécessairement que ces marchandises seront automatiquement arrêtées aux frontières des États-Unis. Quelle est pour faire de la décision prise par le département du travail des États-Unis d'Amérique? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce jeudi 26 septembre 2024. Participe au débat Maître Shadrach Moukad, il est coordonnateur national de la plateforme Comprendre et Agir dans le secteur minier, industriel et artisanal. Maître Shadrach Moukad, bonsoir. Maître Shadrach, est-ce que vous êtes en ligne? Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Aussi avec nous dans cette émission, Franck Fomba, directeur général de la revue Mining News, fondateur de l'ONG Ressources Naturelles pour le Développement et aussi coordonnateur de la campagne Touche pas à mon cobalt. Franck Fomba, bonsoir.
Bonsoir Kelly, bonsoir les auditeurs Radio Capital.
Il va nous rejoindre dans cette émission, Eric Kajemba. Il est coordonnateur de l'Observatoire Gouvernance et Paix. C'est une ONG qui travaille sur les questions de gouvernance ou de la gouvernance minière. À Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, vous nous suivez sur la 95.8. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net, sur Canal+, Channel 572, sur DSTV, Canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Alors, je l'ai dit, le département du travail des États-Unis d'Amérique ajoute le cobalt de la RDC à la liste 2024 des biens produits par le travail des enfants ou le travail forcé. C'est ce qui est contenu dans une note d'information adressée cette semaine au gouvernement congolais par Cobalt Institute, une association commerciale mondiale représentant l'ensemble de l'industrie de la chaîne de valeur du cobalt grâce à Amzati. Nous en dit plus.
À en croire Cobalt Institute, les versions précédentes du rapport incluaient le travail des enfants en RDC en raison de son occurrence historique dans les mines artisanales, tandis que la mise à jour de cette année établit un lien entre le travail forcé et l'exploitation minière artisanale et industrielle. Le cobalt congolais est l'un des 29 nouveaux produits ajoutés à la liste, qui comprend également le minerai de cuivre de la RDC et de la Zambie. Les produits contenant du cobalt comprennent des biens considérés par le département du travail comme essentiel à la transition vers l'énergie verte, à l'informatique des pointes et à la sécurité nationale, tels que les véhicules électriques, les semi-conducteurs et les batteries, et sont également jugés à risque. Toutefois, cette inclusion ne signifie pas nécessairement que ces marchandises seront automatiquement arrêtées aux frontières des États-Unis. Néanmoins, ça augmente la probabilité qu'elles fassent l'objet d'un examen plus approfondi de la part des autorités américaines en raison des interdictions d'importation. Rappelons que la liste des TVPRA est un rapport produit tous les deux ans par les départements du travail des États-Unis, avec comme objectif de sensibiliser le public au risque plus élevé que la normale qu'un bien provenant d'un pays donné ait été produit par les travail forcés ou le travail des enfants.
Merci, Grâce Amzati, pour ces résumés de la note du département du travail des États-Unis d'Amérique. Franck Fomba, je rappelle que vous êtes directeur général de la revue Mining News, fondateur de l'ONG Ressources Naturelles pour le Développement. Vous êtes aussi coordonnateur de la campagne Touche pas à mon cobalt. Je l'ai dit, dans le sommaire, les départements du travail des UCA des États-Unis d'Amérique ajoutent le cobalt de la RDC à sa liste 2024 des biens produits par le travail des enfants ou le travail forcé, alors qu'il y a quelques mois, le projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et des jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement, une initiative présidentielle pour l'éradication du travail des enfants dans les sites miniers, annoncé qu'environ 13 587 enfants ont été retirés des mines de cobalt sur 16 845 identifiés. Comment on peut expliquer cette décision du département du travail des États-Unis?
Merci Kelly. La question est très délicate, hein? Contrairement, je pense, à ce que les uns et les autres sont en train de dire. Ecobalt Institute et même ce que l'initiative a dit, avoir retiré autant d'enfants des mines artisanales. Je pense qu'il faut l'aborder de façon holistique. Quand je parle de façon holistique, je comprends le fait que il faut aller d'abord chercher à entrer dans le rapport qui est volumineux. Le rapport a 330 pages. On ne doit pas se contenter à se limiter à ce que Ecobalt Institute dit. Il y a un rapport qui comprend 330 pages. Il est disponible bien qu'en anglais. Le gouvernement a des gens qui parlent anglais. Le gouvernement doit mettre les gens ensemble afin qu'on analyse le rapport, qu'on voit le contenu dans les détails, et puis quoi faire concrètement. Sinon, il n'y a pas que le cobalt, il y a aussi le cuivre. Il y a aussi le cuivre, il n'y a pas que le cobalt, il y a aussi le cuivre qui est concerné, et il y a aussi le cuivre de la Zambie qui est concerné.
Exactement.
Je pense que nous sommes à l'étape où il est grand temps que le gouvernement agisse cette fois-ci en responsable. On l'avait déjà senti depuis 2019, qu'il y avait un vent qui venait sur le cobalt congolais, surtout à cause du cobalt artisanal. Nous nous étions battus à l'OCDE, je me souviens avec le SG ICOLI à l'époque, on s'était battu avec certains amis, certains partenaires d'autres figures, pour délocaliser une réunion qui devait avoir lieu à Hong Kong au mois d'octobre. Nous l'avions amené plutôt à Kolwezi et à Lubumbashi, où l'OCDE était venu voir les conditions dans lesquelles on produisait le cobalt. On les avait fait visiter les industries. Ils étaient chez Sicomines, ils étaient chez certaines entreprises, ils avaient visité certaines mines, certains centres dans lesquels on vendait le cobalt artisanal. Je pense qu'il est temps que nous soyons sérieux en tant que RDC et que le gouvernement doit agir avec sérieuxité. Il y a des questions de cobalt, ce sont des questions qui touchent l'économie et les finances, qui concernent le budget et le social du pays. Il est grand temps qu'on se mette autour de la table, qu'on analyse ce rapport, qu'on tire les conclusions et qu'on dégage les responsabilités. Et que les responsables étatiques qui ont fait qu'on arrive à cette situation, s'il s'avère, et il va s'avérer, que nous avons des choses, il y a des choses que nous ont reprochées, qui ne sont pas totalement fausses, que les gens soient sanctionnés. Que les gens soient sanctionnés pour avoir agi avec légèreté, exposé le pays. C'est ce qu'il faut faire pour le moment, analyser froidement la situation, afin de voir quelle solution y apporter.
Vous ne rejetez pas totalement ce rapport, puisque vous estimez qu'il y a des choses qui sont vraies, dans ce rapport.
Mais Kelly, vous avez dit qu'il y a eu une initiative présidentielle qui dit qu'ils ont tiré des enfants dans les mines. Moi, j'ai toujours dit, les gens, quiconque a défi de nous montrer les enfants qui sont en train de creuser le cobalt et le cuivre, qu'on nous dise dans quelle mine. S'il y a une initiative gouvernementale qui dit qu'ils ont tiré des enfants, ils doivent nous expliquer. Parce que ça veut dire à un moment... C'est ceux qui ont dit ça peuvent avoir donné de l'eau au moulin, de ceux qui cherchaient à indexer le cobalt. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une question à aborder froidement. Les gens doivent se mettre autour de la table. Et comme j'ai dit, il y avait déjà la menace qui pesait depuis 2019. Il y avait déjà, même pas 2019. Il y a eu un rapport d'Amnesty International de 2016 qui pesait sur le cobalt et le cobalt congolais, avec un rapport qui était sorti sur la mine de Kasulo. La mine de Kasulo qui était à l'époque exploitée par CDM Wayou, des Chinois. Il y avait un rapport qui était sorti. Et sur base de ce rapport-là, touche pas mon cobalt, s'est mis à déminer le terrain au niveau international pour qu'il n'y ait pas embargo sur le cobalt. On avait travaillé avec la province du Lualaba, le gouverneur Mouyeja à l'époque, pour qu'il n'y ait pas embargo sur le cobalt congolais. Et jusqu'à de 2016, on a travaillé jusqu'à faire parvenir l'OCDE, déplacer l'OCDE au Katanga en RDC pour voir les conditions dans lesquelles on produisait le cobalt.
pour qu'ils comprennent que le combat de la RDC n'était pas produit par les enfants. Et c'est un travail qui a été fait. Si aujourd'hui les gens disent, bon, ils ont tiré les enfants des mines de cobalt, on doit se mettre autour de la table. En tant que partie prenante, parce que c'est une question, comme j'ai dit, qui touche à un minerai stratégique, qui touche à l'économie nationale, qui va influencer le budget, qui touche au social, au social de la population, on se met, on analyse froidement, on tire les responsabilités, plutôt on établit les responsabilités, et que les responsables, ceux qui ont failli, soient punis sévèrement, et puis on tire les conclusions pour avancer, et voir comment le plaidoyer doit être fait de façon qu'on n'arrive pas à la sanction. Parce que maintenant, même s'il n'y a pas sanction, il faut savoir comment les opinions publiques occidentales fonctionnent. Déjà, tous ceux qui liront ces rapports, les industriels, les utilisateurs finaux de certaines choses, dont les téléphones et les autres, pourront dire, oh, écoutez, nous, là, on ne va pas utiliser le cobalt de la RDC parce qu'on dit qu'il est produit par les enfants. Même s'il n'y a pas sanction, les opinions publiques sont très sensibles à des questions des droits humains. Je pense qu'on doit être très responsable quand on parle des enfants dans les secteurs du cobalt de la RDC.
Et donc, cette décision pourra avoir des répercussions sur l'industrie minière de la RDC.
Elle aura des répercussions parce que les utilisateurs finaux, l'opinion publique, les entreprises américaines et occidentales qui utilisent le cobalt vont tenir compte de ce rapport, parce que le rapport tel qu'il est fait, il met et l'industriel et l'artisanal dans le même sac. Et déjà, je me souviens la semaine passée à la réunion à la réunion sur les batteries électriques, il y a Fer Cobalt, Alliance et les autres qui ont prétendu déjà dire la même chose. Dire non, voilà, il y avait des problèmes qui se posaient dans la chaîne de production de cobalt industriel de la RDC. Le ministre honoraire quitte Togo et on est intervenu pour le dire non, c'est faux, on ne peut pas dire ça du cobalt de la RDC. Ça dit que c'est une histoire qui venait déjà, on l'a vu venir autant de fois, on a averti. Mais le gouvernement a été distrait dans cette histoire. Aujourd'hui, le gouvernement doit assumer, convoquer urgentement, comme je dis, les parties prenantes, les gens qui travaillent sur les questions de cobalt, savoir qu'est-ce qui a été fait pour que ça n'arrive pas, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui. C'est ça, parce que sinon, là, nous, on ne peut pas être là en train de travailler, pour que ça n'arrive pas, on propose des solutions. Et que ceux qui doivent décider, ceux qui ont le destin du pays, à qui le chef de l'État fait confiance pour gérer le cobalt, ils ne le font pas. C'est pour ça que je dis qu'on doit établir les responsabilités. Il y a des gens qui doivent être sanctionnés dans le gouvernement.
Merci Franck Fomba. Les internautes sont très intéressés par le sujet de ce soir. Goël Fiston Piana pose la question de savoir qu'est-ce que ça coûte au gouvernement congolais d'industrialiser son exploitation minière pour limiter l'utilisation des enfants. Venance Mumba Chempe Makemba appuie ce que Franck Fomba est en train de dire. Il avait pris part à cette rencontre de l'OCDE. Merci. Voilà. On me signale que Eric Kajemba est en ligne. Vous êtes en ligne, monsieur Kajemba? Apparemment, il est parti. Maître Shadrach Moukad, coordonnateur national de la plateforme Comprendre et agir dans le secteur minier, industriel et artisanat. Comment vous avez accueilli cette décision des États-Unis, du département du travail des États-Unis d'Amérique, qui a ajouté sur sa liste le cobalt de la RDC comme des biens produits par les travaux des enfants ou les travaux forcés? Maître Shadrach non plus n'est pas là. Je crois qu'on a un petit souci avec la ligne des maîtres Shadrach également. Est-ce que Eric Kajemba est en ligne? Alors, il n'est pas en ligne. En attendant de les avoir en ligne, on va prendre quelques autres réactions des auditeurs et internautes. Pierre Kapoukou, la confusion totale. La confusion totale des Occidentaux qui nous ont fait souffrir tant d'années. Alors voilà, je comprends pas très bien cette réaction. Comprenez que les réactions sont en train d'arriver en direct pendant que nous sommes en train de présenter cette émission. Alors on me dit qu'il n'est toujours pas en ligne. Monsieur Shadrach, vous êtes là? Est-ce que vous êtes en ligne, Maître Shadrach? Est-ce que vous m'entendez, Maître Shadrach?
Oui, madame.
Alors, je rappelle que vous êtes coordonnateur national de la plateforme Comprendre et Agir dans le secteur minier, industriel et artisanal. Comment vous réagissez à cette décision du département du travail des États-Unis d'Amérique d'ajouter sur sa liste le cobalt de la RDC comme bien produit par le travail des enfants ou au travail forcé?
Je pense bien que Kasmia réagit juste après avoir lu ces rapports du département du travail le département américain du travail. Nous avons donné notre point de vue. D'abord, nous avons pris acte de ces rapports et nous avons estimé que, en lisant tous ces rapports, nous avons compris que tout n'est pas faux, parce que nous, en tant que société civile, sur la mine industrielle, nous avons toujours décrier, dénoncer les traitements des travailleurs congolais par particulièrement les entreprises détenues par des Chinois, et tous les faits qui sont relevés dans ces rapports sont des faits fondés. Et il revient à l'État la responsabilité qui lui incombe par le fait qu'il a témoigné de la négligence. L'État a des services appropriés qui devraient faire les suivis dans les comportements des entreprises, de quelle manière ils sont en train de traiter les Congolais. Mais aujourd'hui, quand vous y allez, les Congolais n'ont jamais eu gain de cause lorsqu'ils se plaignent pour licenciement abusif, pour non-paiement des salaires, particulièrement lorsqu'ils sont considérés des entreprises de la sous-traitance dans notre pays. Les entreprises mères se cachent derrière ces entreprises de la sous-traitance, bien que ces entreprises de la sous-traitance ne respectent pas les conditions ou la législation sociale dans notre pays. Mais lorsque vous essayez d'échanger avec des entreprises mères, ils vous disent, mais ce sont les entreprises de sous-traitance. Vous leur dites, mais non, c'est vous qui les engagez. Vous devez leur imposer les conditions afin qu'ils respectent les normes. Mais l'État a des services. Nous avons l'inspection du travail. Nous avons le ministère de l'Emploi et Prévoyance sociale. Est-ce que nous avons déjà enregistré un seul jour qu'on a sanctionné une entreprise pour n'avoir pas respecté les normes du travail dans notre pays? Mais non. La plupart des autorités, quand ils sont là, ou les agents qu'on envoie, vous trouvez qu'ils sont contents de certaines primes qui leur sont accordées par des différentes entreprises au détriment, au mépris du respect des droits du travailleur. Lorsque nous avons lu ce rapport, on a émis des réserves sur la question de la présence des enfants dans les mines artisanales. Comme M. Franck l'a dit, il revient à ces ONG internationales qui ne cessent chaque fois de publier des rapports, parfois que nous qualifions des rapports qui ne sont pas justes, qui sont un peu tronqués, parce que c'est pour leur intérêt de captation des financements à l'étranger qu'ils montrent que dans les mines artisanales, il y a la présence des enfants. Mais il y a eu des projets, madame. Il y a eu beaucoup de projets depuis lors qui ont été implémentés dans nos provinces, dans le Haut-Katanga, dans les Lualaba. Et comme Franck l'a dit, nous n'avons pas de cobalt. Ce projet qui dit avoir retiré, mais est-ce que nous avons vu où est-ce que ces enfants ont été placés après les avoir retirés? Parce qu'il y a même certains centres qu'ils avaient prévus où on devait encadrer ces enfants pour leur formation et autres. Ces centres sont encore en construction. Mais on dit retiré des dizaines d'enfants.
Mais cette initiative dit que ces enfants ont été réintégrés dans le système scolaire pendant les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024. Et bénéficient de la prise en charge psychologique et autres.
Alors, nous estimons que ces projets qui ont été implémentés, il n'est pas seulement question de Pabea Cobalt, il y a eu plusieurs projets, mais il revient à ces organisations de défendre et d'entrer en contradiction de ce rapport. S'il trouve que la question de la présence des enfants, nous avons travaillé, nous avons retiré les enfants des sites miniers ou des mines artisanales, et qu'aujourd'hui, parce que c'est un rapport qui paraît chaque 2 ans, et pourquoi aujourd'hui le département américain dit qu'on vient de placer, vient d'ajouter les cobalt sur la liste? Ce qui veut dire que ces projets-là, ils doivent être responsables de comprendre que ça n'a pas donné le résultat attendu. C'est pourquoi nous condamnons l'État. L'État est responsable de tout ce qui arrive. Il est vrai que ce rapport
bien que ça ne contraint pas directement ou ça n'amène pas à arrêter d'acheter les produits venant de la RDC, mais c'est une alarme. Cette alarme doit servir d'interpellation au gouvernement congolais. De comprendre que sa négligence, le manque de suivi dans tous ces projets qui sont implémentés pour voir si réellement cela est fait conformément aux résultats attendus et à ce qui a été défini comme programme, l'État n'est pas là. Et aujourd'hui, voilà, nous en sommes là. C'est vraiment une menace. Mais la maison n'a pas encore pris fait. Mais il est possible, si on ne prend pas des dispositions, que nous soyons surpris que la maison a pris feu. Il faudrait qu'aujourd'hui, Franck l'a dit, que toutes les parties se mettent ensemble. Souvent, la société civile n'a cessé d'alerter, n'a cessé d'appeler l'État à avoir des actions permanentes. Mais dans notre pays, les actions sont posées pour un temps, après on abandonne. Dans les 2 années qui se sont écoulées, on trouve, c'est-à-dire, il y a eu recul. Il y avait des rapports en 2016. L'État a actionné des mécanismes, multiples mécanismes. Il y a eu la stratégie nationale pour lutter contre le travail des enfants. Est-ce que tout ce qui avait été prévu dans cette stratégie sur terrain, est-ce qu'on voit ça? C'est la négligence. Voilà là où nous en sommes. Il faut que l'État assume ses responsabilités et que nous voyons qu'est-ce que nous devons faire ensemble pour améliorer la situation, afin que dans les 2 années qui suivent, on puisse retirer le cobalt, pourquoi pas aussi le cuivre de cette liste. Donc, il faut considérer aussi le travail ou les propositions de la société civile chaque fois qu'il est question de menaces pareilles.
Alors, Maître Chadrak, il y a une certaine opinion qui pense que si ce rapport a été publié ce jour par les États-Unis d'Amérique, c'est parce que ils n'ont plus le monopole sur ce cobalt, surtout dans le Grand Katanga. Qu'est-ce que vous pensez de ces gens qui pensent que c'est parce que les États-Unis n'ont plus le monopole sur le cobalt, c'est pourquoi ils ont publié ce rapport?
Mais ils ont motivé les rapports. Ils ont motivé les rapports. Nous disons, c'est pourquoi les départements viennent de publier ces rapports, bien qu'ils n'aient pas le monopole, si c'est la guerre des grandes puissances, mais ils ont motivé les rapports. Nous avons dit, ici, il est important, si vraiment ce rapport est faux, les éléments par rapport au traitement des travailleurs, tout ce que le département a détaillé, nous disons, c'est fondé, parce que nous l'avons déjà dénoncé nous-mêmes. Nous avons autant de fois établi cet état des choses auprès de l'autorité compétente, l'État congolais, qui n'a pas agi selon les différentes propositions ou les différentes revendications, réclamations de la société civile. Donc, il ne faut pas se cacher derrière pour dire, non, c'est parce qu'il n'a pas le monopole, c'est une alarme, comme je l'ai dit. Nous avons besoin, parce que aujourd'hui, c'est une menace qui est faite à notre minerai. Cette menace pèse. C'est la vie de plus de 100 millions de Congolais qui est concernée. Nous devons nous lever tous pour voir, amener l'État à être sérieux dans ce qu'il fait, à prendre avec considération la question, voir qu'est-ce que nous devons faire pour améliorer, que de se lamenter ou chercher à acquiser, pour dire non, l'Amérique veut faire ça parce qu'il veut regagner le monopole. Est-ce que c'est pas fondé ce qu'on dit? Mais par rapport à la présence des enfants, madame, je répète, ça c'est encore discutable. C'est encore discutable.
C'est encore discutable.
Est-ce qu'on peut nous démontrer là où les enfants travaillent aujourd'hui? Alors, il y a bien des choses que nous avons toujours proposées. Voilà aujourd'hui, l'État congolais, en 2019, Franck l'a dit, nous avons mené un plaidoyer pour que l'État puisse avoir le monopole et le contrôle du secteur d'exploitation artisanale. L'État a créé, je sais, madame, l'entreprise générale du cobalt, qui devait être une solution pour la formalisation du secteur. Lorsque le secteur est formalisé, on ne pouvait pas trouver les enfants dans les sites miniers artisanaux. Mais aujourd'hui, nous avons cette question. Mais où est passé, je sais, qui a été créé il y a déjà plus de 6 ans, cette entreprise générale du cobalt, qui était une solution, un mécanisme que l'État a mis en place pour résoudre la question, pour l'assainissement du secteur. Où en sommes-nous aujourd'hui? On se pose la question.
On va poser la question. On va poser la question à l'État congolais, Maître Shadrach Moukaz. On vous garde encore dans cette émission. Merci à Rachidi Koudra qui nous suit depuis la ville d'Ebounia, journaliste à la radio de l'université d'Ebounia. Eric Kiajemba, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Alors, vous êtes le coordonnateur de l'Observatoire Gouvernance et Paix. C'est une ONG qui travaille sur les questions de la gouvernance minière. Quelle est votre lecture de la décision prise par le département du travail des États-Unis d'Amérique?
Oui, ma lecture est que nous, on a une première expérience, c'était la loi Dodd-Frank, qui est en 2010, où effectivement on a établi un lien, par exemple, entre le minerai, à ce moment-là on parlait de 3TG, donc le coltan, la cassitérite, le framite et l'or, et le conflit qui s'est vu à l'est de la RDC. Et ce lien a été établi, et que à ce moment-là, cette loi, c'est presque la même chose, elle disait, il faut un embargo pour le minerai de la RDC, parce que effectivement il attise le conflit. Et nous, et moi personnellement, j'étais parmi les gens qui ont dit l'embargo, non. L'embargo, c'est pas une solution, parce que si embargo, c'est pas le président Kabila qui va souffrir, mais c'est plutôt les communautés locales. Donc on doit partir de ça pour dire ces minerais, quoi qu'il y a des difficultés, elles aident les communautés locales, et même aujourd'hui, c'est la plaque tournante de l'économie. Et donc, ça, c'est une première chose. Et nous, on s'est levé pour dire, il n'y a pas d'embargo, mais ce qu'on a demandé au gouvernement, c'est est-ce que nous pouvons mettre nos efforts ensemble pour justement travailler sur tous ces risques-là, que ce soit les conflits, les violations des droits de l'homme, les questions de sécurité. Et on y a travaillé depuis plus de aujourd'hui, ça fait au moins 14 ans qu'on y travaille. Et on a eu des avancées. Et les avancées, c'est tel que aujourd'hui, il y a, par exemple, dans ce domaine-là de 3T à l'est de la RDC, on a des chaînes d'approvisionnement, des cassitérites, des coltans qui fonctionnent. Et donc aujourd'hui, on peut tracer, une mine ou de la cassitérite, du coltan d'une mine, jusque chez Philips, jusque d'autres utilisateurs finaux. Et donc, mais ça a été une résultante des efforts de tout le monde. Et là, le gouvernement s'y est impliqué, et même, on va voir que dans la loi ou le code minier 2008, il y a eu énormément de dispositions qui sont parties dans le sens d'avoir plus de devoirs de diligence. Et donc, moi je pense que, les amis du Katanga, pour ce qui est du cobalt, il ne faut pas qu'on s'alarme à outre mesure. Ce qu'il y a ici, c'est que, effectivement, on a des enfants dans les mines, et je ne sais pas si aujourd'hui on peut dire qu'il n'y en a pas, parce que la RDC a ses problèmes, on a tous les problèmes de gouvernance, la question des enfants, elle ne peut pas étonner qu'elle soit celle-là, parce que aujourd'hui, on a énormément de problèmes au niveau de la gouvernance globale, et donc les enfants, il y en aura toujours dans les mines. Toute la question, c'est qu'est-ce que nous on fait maintenant qu'il y a des enfants. Et il n'y a pas que des enfants, je dois dire ça à Franck et à Shadrach. Il y a toutes les questions des éléments de l'armée qu'on retrouve dans les mines de cobalt, et la manière dont se comporte tout ça. On a toutes les questions de violation des droits de l'homme, les communautés qui sont bastonnées chaque jour. Tout ça sont des problèmes, effectivement, qui peuvent faire qu'on stigmatise les cobalt du Katanga ou encore du grand Katanga, je vais dire ça comme ça. Et donc, en ce que nous concerne, nous, ce qu'on remarque aujourd'hui, heureusement que cette fois-là, les Américains ont été un peu prudents, parce que ça n'a pas été, là où ils disent, bon, nous arrêtons, n'achetons pas, mais ils disent, bon, ça peut aller plus loin si nous, on n'y prend pas garde. Et donc, moi, je veux dire, d'un côté, qu'il y a cette responsabilité qui est la nôtre, comme Congo, comme RDC, et donc, comme on dit les amis ici, il faudra que chacun essayer de jouer son rôle. Et aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que le problème, ce n'est pas qu'un jour les enfants, on aura zéro enfant dans une mine. C'est pas seulement vraiment ça la question. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les réduire le plus possible de risques, de cette présence des enfants. Et moi, je dis que c'est un paquet des enfants. Toutes ces violations des droits de l'homme et tout ça peuvent stigmatiser le cobalt du Katanga. Et donc, qu'est-ce que nous faisons ensemble? Il y a une deuxième chose, un deuxième élément qu'on a semblé négliger et qu'Eli vous en avait parlé. C'est en fait aussi ce positionnement géostratégique entre la Chine, les États-Unis et autres. Ça, c'est aussi une autre question. Il est vrai que on nous demande effectivement, parce que ce que demandent les Américains, c'est quoi? C'est de dire, les entreprises comme Apple et les autres, ils doivent justement suivre ou encore déclarer l'origine de là où ils ont acheté. Et ils ne doivent pas acheter dans une mine où il y a des enfants, il y a des relations à droit. Oui, ça c'est bien beau, il y a des réglementations aux États-Unis, etc. Mais toute la question, ce n'est pas de dire aussi que bon, nous devons suivre, mais qu'est-ce qu'ils font aussi, ou qu'est-ce qu'ils font aussi le gouvernement américain, les entreprises, l'industrie américaine, pour aussi voir un peu les conditions et travailler avec nous en aval de la chaîne, en amont de la chaîne, je veux dire. Et donc, ils ont aussi une responsabilité. Et donc, les efforts doivent être fournis de part et d'autre. Il y a le gouvernement qui doit faire des efforts. J'ai dit, les Américains et même l'industrie aussi doit faire des efforts. Aujourd'hui, je ne sais pas, les amis de la société civile, combien d'argent vous avez, nous avons, par exemple, de la part de l'USAID, je sais pas, combien d'appels il y a pour question d'aider à améliorer la gouvernance minière. Il y en a très peu. Et quand il y en a, c'est pour quelques ONG internationales. Et donc, il y a une responsabilité aussi de leur part. Et légiférer, c'est bien, parce que même l'Europe aussi, après légiférer sur le minerai critique et tout, ils légifèrent, c'est bon, mais il faut des mesures d'accompagnement. Et donc, moi, je ne pense pas que seulement la faute est à la RDC, mais il y a une très grande responsabilité aussi des États-Unis et des autres. Alors, c'est là où je voulais dire que les amis qui disent, bon, on a crié, le gouvernement n'a pas fait beaucoup de choses. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que, est-ce que vous pensez qu'en sortant les enfants de la mine, on aura résolu la question? La problématique de l'enfant, il faut la prendre de manière holistique. Ce n'est pas une question seulement de sortir de la mine, mais ils sortent de la mine, ils vont où? Parce qu'on va les trouver sous la rue, et le lendemain, ils sont des enfants de la rue, et après on les chasse de la rue, ils rentrent en route à la mine. Et pour les cas de l'Est ici, ils vont dans les groupes armés. Et donc, on ne peut pas dire que ça s'arrête seulement à sortir les enfants de la mine, mais il faut qu'au niveau de la gouvernance globale, au niveau des politiques de la RDC, qu'on arrive justement à prendre ces enfants, et disons la question des enfants avant le corps.
Mais selon le projet, selon le projet PABEA, c'est une initiative présidentielle, ces enfants seront réintégrés dans le système scolaire. Certains sont déjà réintégrés même.
Oui, intégrés dans le système scolaire, mais le système scolaire a ses problèmes. Et donc, je donne un exemple. Un enfant qui n'a pas mangé, il fait quoi? Donc, il a été réintégré, mais il n'aura pas mangé. Et donc, il faut une approche un peu plus globale. Et c'est là où nous devons dire, tout l'argent qui sort des mines, qu'est-ce que l'État en fait? On parle ici de l'argent des générations futures. Maintenant, c'est parce qu'on est en train de vouloir en faire. Et donc, on ne peut pas isoler cette question de toutes les autres questions de gouvernance au niveau global. Mais ce que j'essaie, c'est que, ces initiatives, si elles restent assez isolées comme ça, elles ne résoudront pas les problèmes. Et ce qu'on nous demande au niveau de l'Occident, c'est pas que on aura zéro enfant. Toute la question, c'est ça le devoir de diligence. Quand il y a un problème, qu'est-ce que nous faisons? C'est ça la question.
Merci.
Est-ce que nous nous mettons ensemble pour dire non, on sort des enfants? C'est ça la question. C'est de faire des efforts de réduction des risques. Et ces efforts-là, si on les rapporte, on ne va pas nous tuer pour ça.
Merci Eric Kajemba. Marc Mbaka Katanga qui nous suit depuis la page Facebook de Radio Okapi. Je trouve cette décision, en fait ce rapport, comme vérité. Il y a trop d'enfants dans les carrières, surtout ici chez nous à Kolwezi. Vraiment, ça fait pitié. David Moussangiro, pose la question de savoir qui autorise, qui emmène ses enfants, qui autorise ses enfants d'intégrer ces genres, ou de faire ces genres de travaux. C'est une question qu'il se pose. Alors, on va ouvrir notre standard pour prendre aussi ces auditeurs qui nous appellent direction Nord Kivu pour écouter cet auditeur qui nous appelle depuis la ville de Beni. Je disais, on va se rendre à Beni au Nord Kivu pour écouter cet auditeur. Alors, on va prendre plutôt l'auditeur de Bukavu. Les lignes, on me signale que les lignes posent un peu problème. Franck Fomba, il y a Fikiri Chomba qui nous écrit depuis Kolwezi, plutôt Bukavu au Sud Kivu. Les États-Unis n'ont jamais joué franc jeu avec la République démocratique du Congo. D'ailleurs, on doit se méfier de cette décision discriminatoire. À mon humble avis, ce sont eux qui pillent les ressources minières de la RDC au travers du Rwanda. Si du moins ils avaient fait cela au Rwanda, ça allait être une bonne nouvelle pour nous Congolais qui réclamons la paix, rien que la paix. Cette décision est une énième décision et non seulement une provocation, mais aussi une insulte. Je pense que le gouvernement congolais devrait chercher des partenaires fiables et non ces cramponnés aux États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez?
Kelly, je comprends parfois certaines réactions de certains auditeurs, certains compatriotes, mais je pense généralement dans la vie, les hommes et les femmes fortes, autant que les institutions, les organisations fortes, les nations fortes, sont ceux-là qui prennent le courage de faire l'introspection. Quand on se pose, de commencer par se poser la question, quelle est ma part de responsabilité? Quelle est notre part de responsabilité? Ce qui nous est reproché, est-ce vrai? Est-ce faux? Qu'avons-nous fait? Comment y remédier? On ne peut pas... Écoutez, nous devons nous comporter comme des Japonais et des Chinois ou même des Sud-Coréens à un moment. C'est-à-dire que nous renforcer de l'intérieur, travailler en mettant toutes les intelligences congolaises ensemble, de façon à devenir fort, à éviter les choses qui peuvent pousser aux gens de nous blâmer, de nous indexer, en tenant compte de toutes les réalités géopolitiques et géostratégiques du monde globalisant. Je pense que si le gouvernement avait travaillé à en tenir compte, on n'en serait pas arrivé là, parce que je reprends que déjà en 2019, on était très avancé par rapport à cette question. On était très avancé en prenant des mesures. On ne comprend pas comment ça a reculé. Il y a Maître Chadra qui a posé un problème très sérieux. L'entreprise générale de cobalt avait été créée, c'était suite à l'invasion de certains sites miniers par des artisanaux et puis l'armée était intervenue. C'est alors que le chef de l'État avait demandé, obligé qu'il y ait une entreprise créée pour gérer le cobalt artisanal. Nous avions pris parti à la création des EGC, on a même participé à certaines réunions des EGC. Mais il faut se poser la question, pourquoi jusqu'aujourd'hui EGC ne fonctionne pas normalement? Qui bloque EGC? Qui bloque EGC? C'est bloqué par le gouvernement central. EGC, c'est bloqué par la province du Lualaba. C'est connu de tout le monde. Cobalt PDA. Je suis surpris, et M. Chadra doit être surpris, et toute la société civile doit être surprise, d'apprendre que les gens de Cobalt PDA veulent coller leur échec au cabinet du président en parlant d'une initiative présidentielle. Les gens de Cobalt PDA ont des comptes à rendre à la population, à la nation congolaise. Ce projet-là existe depuis quand? 2019. Ils ont eu de l'argent, autant de millions, c'est plus de 70 millions de dollars que la Banque mondiale, plutôt la Banque africaine de développement, devait mettre dedans. Ils doivent dire aux gens comment l'argent a été voté, a été géré. Depuis 2019, aujourd'hui, vous nous dites qu'ils disent avoir mis l'année scolaire 2022-2023 avoir mis des enfants à l'école. Mais ça n'existe pas seulement aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai commencé par dire qu'on doit, c'est une question abordée froidement. Que le gouvernement ait le courage de réunir les acteurs qui travaillent sur la question de cobalt et de cuire autour de la table afin que nous puissions analyser le rapport et tirer les conséquences et que les responsables, soit les gens qui auront mal agi, soient sanctionnés. Il faut aussi que le ministère des Justices s'implique, qu'on fasse des enquêtes. Parce que l'impunité au niveau du gouvernement n'arrange pas les choses. Tout le monde décrit la vision du chef de l'État. Est-ce que sur le terrain, on applique la vision du chef de l'État? On ne l'applique pas. on le flatte. Ce sont des choses qui doivent s'arrêter. La Dodd-Frank. Déjà dans la Dodd-Frank, quand vous lisez bien la Dodd-Frank, il y a quelque part où il y a une incise qui était déjà faite, où il y avait des projecteurs qui étaient sur le secteur qui puis faire. J'ai été personnellement formé à la Dodd-Frank aux États-Unis d'Amérique, par le département d'État. Je suis allé, on a tenu des réunions au Congrès américain, avec des congrès des sénateurs et des congressmen. Nous sommes allés à la Silicon Valley, en Californie, pour parler avec les utilisateurs finaux. On était au département d'État. On a parlé avec autant de partenaires pour leur dire, voici la différence, par exemple, qu'il faut mettre entre les 3 TG et le secteur cuprocobaltifère de la RDC. Il y a des choses, on doit mettre la démarcation. Les mines, l'or, la cassitérite, la façon dont se produit, c'est par la façon dont le cobalt et le cuivre sont produits. Et à l'information de tous, il y a des initiatives de traçabilité des minéraux qui existent déjà au Katanga. Les gens le font. Il y a toutes les entreprises là. Se sont arrangées avec certains traceurs internationaux pour leur tracer les minéraux afin que les minéraux là soient identifiés là où ça arrive. Aujourd'hui, le problème se pose. On doit se calmer. Mais urgemment, que le gouvernement convoque la réunion où les gens se mettent autour de la table. Les Congolais, on se met, on se parle. Sans se fier, sans se confier ou se fier à Cobalt Institute. Cobalt Institute existe depuis tout ce temps. Existe. Soi-disant partenaire du gouvernement. Pourquoi ce Cobalt Institute n'a pas pesé sur le gouvernement américain pour que le cobalt et le cuivre ne soient pas cités, ne soient pas indexés? Il y a un problème qui se pose. Le gouvernement devra réfléchir. Ce sont toutes ces questions sur lesquelles on doit se mettre à réfléchir et prendre une position qui tienne compte que le cobalt est un minéraux stratégique pour la RDC. Pour nous, notre entendement, un minéraux stratégique fait partie de la sécurité nationale. Donc, c'est une question. On doit se mettre autour de la table. Moi, je demande aux uns aux autres de se calmer, que le gouvernement agisse en urgence, de façon qu'on puisse, réfléchir et trouver des voies de sortie, de façon que, d'ici les 2 ans, on ait tout fait pour que notre cobalt et notre cuivre ne soient pas sur cette liste du département du travail américain.
Maître Chadra, qui a Fabrice Sandili, depuis la ville de Beni au Nord Kivu, qui pense que cette décision est une opportunité pour le gouvernement congolais de mettre en place des réformes profondes afin d'améliorer les conditions de travail dans les mines, attirer des investisseurs plus éthiques et garantir une exploitation plus responsable des ressources naturelles du pays. Il est crucial que le gouvernement congolais prenne des mesures immédiates pour renforcer la régulation de l'exploitation minière, notamment en éradiquant le travail des enfants et en améliorant les conditions de travail. La mise en place des partenariats avec des organisations internationales et des entreprises responsables pourrait aider à assainir la chaîne d'approvisionnement. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Chadrak?
Cette intervention de notre collègue de Beni est tellement logique, parce que telle a été aussi la réflexion de notre plateforme Comprendre et Agir dans le secteur minier industriel artisanal Kashmia. Nous avons estimé que c'est une opportunité pour nous. Nous avons dit que l'État devait se saisir de cette opportunité qui est une menace, mais qui projette dans l'avenir des actions, notamment des sanctions. Mais il est important aujourd'hui, l'État qui avait un peu failli à sa mission, qui avait relâché un peu, n'ayant pas fait le suivi des différents mécanismes qui ont été mis en place, il est important, dès lors, que l'État mette autour, Franck l'a dit, madame, que toutes les parties prenantes du secteur, c'est notamment l'État congolais, les organisations de la société civile, les secteurs privés, les entreprises minières elles-mêmes, les coopératives minières. Ensemble, nous devons réfléchir qu'est-ce que nous devons faire urgemment, quelles sont les actions que nous devons mener visant l'amélioration du secteur. C'est notamment l'assainissement du secteur, la formalisation du secteur minier artisanal. Aujourd'hui, l'État, s'il faut poser des actes, vous savez, quand vous prenez certains sites miniers qui sont gérés par des coopératives qui existent, madame, il y a des mécanismes de contrôle sur ces sites-là. Je vous dis, franchement, vous ne trouverez pas des enfants. Je prends par exemple, nous avons les sites de Mutoshi. Si vous y allez, il y a des coopératives qui y exercent. Mais ils ont un service de sécurité
très rigoureux qui fait que les femmes vulnérables, les enfants ne peuvent pas fouler leurs pieds dans leur site, même pas dans leur mine. Mais lorsque il y a des personnes ou des artisanaux qui se débrouillent du moment que l'État ne leur a pas accordé des zones d'exploitation, où on pouvait accorder cela à des coopératives avec des mesures de sécurité, de protection, d'interdiction de présence des enfants, vous voyez aujourd'hui ce rapport qui disent que moi je qualifie des rapports sur la présence des enfants qui est discutable, parce que même le gouvernement américain, il y a aussi des organisations internationales qui ont posé, qui ont implémenté des projets de retrait des enfants dans les mines. Ces départements devaient leur demander aussi des comptes pour dire où sont les résultats du travail que vous avez posé en RDC. Il est pareil aussi au gouvernement de demander des comptes à part des cobalt. Où sont les résultats? Parce qu'aujourd'hui, les minéraux du cobalt, il est devenu indexé et il est menacé de demain ou le lendemain, il peut être sanctionné. Voilà que cette intervention veut dire clairement, c'est une opportunité pour le gouvernement congolais. Nous devons tous ensemble réfléchir sur des actions à mener pour améliorer les conditions de travail ainsi que assainir le secteur minier artisanal.
Joseph Miji, voilà qui nous suit depuis Kakanda, dit ceci, il y a beaucoup d'enfants dans les mines par manque d'emploi de leurs parents. Il faut aussi signaler que les mines sont très militarisées ici au Lualaba. Il y a un autre auditeur qui nous écrit, c'est une auditrice j'imagine, Agnès Cabouise, thématique utilisée comme fonds de commerce pour nourrir leurs auteurs, plus de 243 millions de dollars commis à la thématique de la problématique des enfants dans les mines. Théo, maître Théo Mbouy, depuis Mbujimaï, pose la question de savoir quel impact réel de cette mesure sur l'exploitation illicite dans nos provinces. Il faudra que le gouvernement congolais prenne des mesures draconiennes contre l'exploitation de ces minerais stratégiques et importants. Les États-Unis peuvent prendre une mesure extrême, mais nous, en tant qu'État, quelle est notre contribution pour nous faire respecter? Eric Kajemba, comment vous qu'est-ce que vous pensez de toutes ces réactions que nous venons de lire?
De très bonnes réactions effectivement des compatriotes, mais ce que j'allais dire c'est qu'effectivement il faudrait comprendre qu'aujourd'hui le cobalt et le cuivre sont des minéraux très prisés, le fait qu'ils concourent un peu à cette transition énergétique, écologique, toute transition verte, et donc c'est une grande opportunité pour la RDC. Et quand on voit la demande, c'est que c'est quelque chose qui peut prendre encore 20 à 30 ans. Hein? Et donc, la RDC doit mieux se positionner, justement, et profiter de cette opportunité pour que ce ne soit pas comme le 100 ans qu'on vient de passer où on a exploité et il n'y a rien qui est resté. Et donc, moi, je pense qu'il y a le gouvernement qui devrait justement comprendre que c'est enfin, je ne veux pas dire c'est aujourd'hui ou jamais, mais que c'est une très très belle opportunité pour nous, parce que le monde entier est à leur égard tourné ici. 63% de cobalt qui interviennent dans les batteries provient du Congo. Et donc ça c'est une très grande opportunité. La deuxième chose c'est qu'il y a aussi une lutte au niveau géostratégique, la Chine, l'Europe, etc. Et ça aussi on doit comprendre. On doit comprendre aujourd'hui par exemple que pratiquement tout le cobalt en tout cas la quasi-totalité est raffiné en Chine, et c'est de la Chine où on sort par exemple les composantes électroniques, les semi-conducteurs, etc., et qui à la fin vont encore aux États-Unis. Et donc il y a aussi ça au niveau géostratégique qui est un problème, et aujourd'hui l'Europe c'est la même chose. Vous avez suivi les MOU signé entre l'Union Européenne, le Rwanda, la Namibie, l'Angola, il y a 14 pays, je pense, où ils aussi se battent pour dire, nous aussi, on a passé de réserve, etc. Donc, il y a aussi cet enjeu-là qu'il faut mettre aussi dans la réflexion et ne pas penser que tout cela vient comme ça. C'est-à-dire qu'il y a ça. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a, même les États-Unis, actuellement, je ne sais pas si les amis sont au courant, il y a un grand projet là qu'on appelle ETI, African Trade Investment, où on a pratiquement de l'argent, je crois plus de 60 millions de dollars de subventions pour les entreprises congolaises. Et c'est une subvention, pas un prêt. Et cet argent-là, il est là à l'USAID. Cet argent, il est parti où? Et là, cet argent, à les États-Unis, ce qu'ils veulent, ils ont demandé justement avec cet argent, c'était que vous en bénéficiez, mais la seule condition, vous exportez. Vous avez la chaîne d'approvisionnement américaine, et ça avait l'avantage que vous n'avez pas d'intermédiaire. Et donc, ça, ce n'est pas des choses gratuites. Et donc, nous devons, dans notre réflexion, comprendre, et la RDC doit comprendre tout ce jeu-là, et essayer maintenant, lui qui a le cobalt, lui qui a la matière première, comment il se positionne par rapport à ça. Et je crois que ça sera important. La deuxième chose que nous venons de dire ici, c'est la comment on fait des efforts, on met les efforts ensemble pour justement travailler sur tous ces risques-là et ne pas nous auto-flageller. Moi, je pense que le Congo, il est ce qu'il est. Le contexte, c'est très, très difficile. Aujourd'hui, la cohabitation entre l'industrie et l'artisanat, elle est très difficile, mais c'est une réalité économique qui est là. Il faut faire avec, et c'est de faire des efforts. On ne va pas dire aujourd'hui qu'on va chasser tous les artisanaux. On ne va pas dire aujourd'hui qu'on n'aura pas d'enfants. Ça, moi, je ne peux pas rêver. Mais la question, c'est de dire, s'il y a des enfants, on fait quoi? Et l'ami vient de dire ici, la coopérative de Mutoshi, je pense, je ne sais pas si vous le prononcez bien, où les coopératives ont fait un effort, et il n'y a pas d'enfants. Si une autre coopérative, la même chose, si la société civile, nous ici, au Kivu, on travaille comme ça, nous, la société civile, on fait un effort ensemble avec l'armée, la police, etc., pour sortir les enfants, et ce n'est que comme ça qu'on peut créer des chaînes d'approvisionnement responsables, et à ce moment-là, on aura moins de problèmes avec sans les Américains et autres. La dernière chose, c'est que
ça sera votre conclusion.
Pas penser. Oui, il ne faut pas penser que moi je ne suis pas en train de penser aussi que les États-Unis ou l'Europe que eux ils doivent rester et dire nous sommes en aval de la chaîne, nous on n'a plus rien à faire. Nous voulons que Apple appuie la coopérative de Mutoshi, nous voulons que Boeing vient au Congo et appuie, et ça c'est possible parce qu'il profite de nos minéraux. Et la dernière chose, nous voulons que les États américains, l'Union européenne aident la RDC à se relever en appuyant certains programmes, que ce soit les réformes de l'armée, etc. Ce n'est que tous ces efforts ensemble qui vont faire qu'on s'en sorte.
Merci,
c'est possible. Et les minéraux de conflit de l'Est sur lesquels nous on a travaillé, on a démontré que c'est faisable.
Merci Eric Kajemba, coordonnateur de l'Observatoire Gouvernance et Paix, une ONG qui travaille sur les questions de la gouvernance minière. Maître Chadrak, ça sera aussi votre conclusion. Vous êtes coordonnateur national de la plateforme Comprendre et Agir dans le secteur minier, industriel et artisanal. Il y a Frédéric, un auditeur, qui nous écrit de Kinshasa. Il pense que cette décision pourrait ralentir les exportations congolaises et avoir un impact sur la compétitivité des produits à base de cobalt sur les marchés internationaux, au gouvernement de prendre des mesures pour qu'on n'en arrive pas là. Brève réaction. Monsieur Chadrak.
Allô, madame.
Oui. Vous avez suivi.
Merci bien. Je pensais que notre collègue dit c'est exact. Jusqu'à là, nous avons dit les rapports, la décision du département américain du travail. C'est une alarme, c'est une interpellation. Les mesures dissuasives ne sont pas encore mises en place. Nous devons profiter pour que nous puissions améliorer les conditions d'exploitation de nos minéraux. Et nous devons rappeler au gouvernement que la question de la présence ou la lutte contre le travail des enfants ou la présence des enfants doit être une des actions prioritaires de l'action du gouvernement. Dès lors que nous venons de recevoir cette menace, et cela a été en 2016, il ne faudrait pas que demain cela nous rattrape amèrement, ça sera tard. Le gouvernement sait bien que l'économie nationale repose sur la production minière, que ce soit les minéraux de l'artisanat et les minéraux de l'industrie. Aujourd'hui, on venait de faire maintenant les liens entre l'artisanat et l'industrie. Ça devient plus grave
tout ce temps, on a toujours indexé les minerais de l'artisanat. Et maintenant que même les minerais de l'industrie sont indexés, l'État doit prendre ses responsabilités, doit prendre la question au plus grand sérieux pour que nous mettions des actions. Et nous, société civile, depuis hier, nous avons réfléchi sur ce que nous pouvons proposer à l'État congolais comme un cahier des charges, sur des actions que nous devons mener ensemble pour résoudre la question, parce que ça nous préoccupe. L'économie du pays repose sur les minerais. Nous devons nous battre pour que les Américains et le département américain constatent qu'il y a eu des efforts déployés, mais nous espérons que si l'État nous écoute en tant que société civile et nous associe aux travaux, dans les 2 années, les cuivres et le cobalt seront retirés de cette liste. Et nous, ça, c'est notre détermination.
Franck Fomba, votre conclusion.
Il est de l'initiative et prévoir du gouvernement de convoquer urgemment une réunion qui réunisse toutes les institutions de la République. Parce que c'est une question qui touche les minerais stratégiques. Minerais stratégiques qui sont des minerais sécuritaires aussi pour notre pays, afin que nous puissions faire réfléchir, faire un diagnostic, faire de l'introspection et voir comment nous sortons de cette histoire et comment nous sortons, non pas seulement sortir de cette histoire, comment arranger les choses et sortir très fort en prévoyant. Nous ne sommes pas forts en prévention. Nous n'avons pas de temps. Nous manquons des centres de recherche et c'est un problème. Il est grand temps qu'on se mette et qu'on réfléchisse ensemble. Société civile, la Chambre des Minerais l'a fait que le gouvernement, le Parlement et l'institution présidente de la République afin qu'on aille de l'avant.
Merci Franck Fomba, merci à tous les auditeurs qui étaient très nombreux à suivre cette émission et même les internautes, Valérien Kissembe ici à Kinshasa, Prince Ngendou depuis Fungurume, vous êtes très nombreux, Raphaël Ilunga depuis Tilenge au Kasaï Oriental, Kiasungukas, merci Généreuse Sami, Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir, bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.